Nom,
Alors, parlons d'eau.
prénom.
Benoît.
Bonjour Benoît, merci de nous avoir rejoints à travers l'Internet au cercle nautique de La Rochelle et pour
Bonjour.
parler de ton histoire de Cap Hornier. Mais avant de parler du Cap Horn, tu as une longue histoire avec la mer. Elle commence, est-ce que tu peux nous préciser à quel âge ça a commencé, qui t'a amené la première fois en mer? Et c'était sur quel bateau?
Alors, c'était sur un petit bateau de croisière. Je me souviens ni du nom du bateau ni de sa taille. C'était peut-être une dizaine de mètres. Et en fait, c'était avec un copain d'école. Je me souviens, on était en dernière année de maternelle. Donc, j'avais 5 ans. Et c'était un copain d'école. J'étais allé avec ses parents faire un tour dans les Perpi Rochelais. Et je m'en souviens très bien parce que quand on était donc il y avait quand même pas mal de vent. Il nous avait demandé de descendre. De rester à l'intérieur du bateau. Et quand on était descendu, ça m'avait fait un espèce de haut-le-cœur, là. Et mon ami, qui s'appelait aussi Benoît, m'avait dit, viens, on va regarder par le hublot. Et c'est vrai qu'on voyait la mer, et là, j'étais fasciné. Et depuis, j'ai jamais eu le mal de mer.
Et tu as continué ensuite à naviguer à partir de ce moment-là?
Ouais, bah, en fait, à l'école, parce que mes parents font pas de voile. Donc à l'école, j'avais des copains dont les parents avaient un bateau et donc j'avais passé des week-ends avec eux à se balader dans les Pertuis Rochelais.
Et pendant toute cette période où tu as navigué comme ça, est-ce que tu t'es nourri de lecture, de films ou de rencontres de marins qui t'ont fait rêver et qui ont enclenché chez toi cette envie de naviguer.
Non, 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 en fait j'étais vraiment attiré par la mer, donc j'ai fait un petit peu des stages d'optimiste à la SPTT à La Rochelle l'été. Et puis quand j'étais au lycée, je me suis retrouvé à faire des régates en catamaran de sport. Et en fait, c'est vraiment quand je suis allé à la fac où j'ai eu l'occasion d'avoir un bateau à m'occuper d'un bateau, c'était une surprise. Donc, on l'entretenait et en échange, le propriétaire nous laissait nous en servir quand on voulait. Et en fait, je pense que j'ai passé plus de temps les après-midi à naviguer qu'à aller en cours. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai rencontré les professionnels, parce qu'il y a quand même un haut niveau à La Rochelle. Et donc, j'ai rencontré des gens qui s'entraînaient, tels David Drapeau, des personnes comme ça. Et comment ça s'est passé? Tac, 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 tac. Et oui, et en fait, compte, il n'y avait pas de maîtrise de mathématiques à La Rochelle, donc je me suis inscrit par correspondance. Et en fait, là, j'ai jamais travaillé, quoi. J'ai envoyé aucun devoir, ça ne l'a pas fait du tout. Et je me suis retrouvé ouvrier stratifieur chez Marc Pintat pour la construction du bateau d'Isabelle Autissier qui voulait faire le Vendée Globe de 1996. Voilà, donc au début, j'étais arpète. Et puis en fait, je me suis très vite intégré à l'équipe, j'ai eu quelques responsabilités. Et surtout, je me suis bien entendu avec Isabelle Autissier et son équipe. Du coup, j'ai aussi participé après à la préparation du bateau, une fois qu'il avait été mis à l'eau, jusqu'à être sur le bateau à la sortie des Sables-d'Olonne, juste avant qu'elle parte. Donc ça avait été une histoire incroyable. Parce que j'étais arrivé dans le chantier, il y avait rien. On a construit le bateau. Et 9 mois ou 10 mois plus tard, elle partait. C'était assez extraordinaire. Et en fait, dans l'équipe d'Isabelle, il y avait un gars qui s'appelle Serge qui avait un mini transat à louer. Ah bon, la mini transat, c'est quoi? Et puis du coup, en fait, je vais louer son bateau. Puis je suis parti à la recherche de partenaires financiers, de sponsors. Et puis j'ai participé à la mini transat 1997. C'est comme ça que j'ai rencontré Richard Mérigeau. On avait tous les deux des bateaux, des sister ships, des bateaux construits à Morzine, dans les Alpes. Et du coup, suite à cette mini transat, on a décidé de construire un nouveau bateau à deux. Comme ça, c'était plus facile, en disant on partira chacun notre tour. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a rencontré Yannick Destaven et Arnaud Boissière. Et donc, on avait monté une association qui s'appelait Voile Solitaire 17. Et on avait récupéré un hangar et on préparait nos bateaux ensemble.
D'accord. Donc, tu as commencé la course, tu viens de me dire, avec cette mini Transat. Et
Ouais.
ensuite, tu as continué. Donc, tu as un parcours, on l'a vu tout à l'heure déjà, qui était assez long en course. Parmi toutes ces courses que tu as effectuées, est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a laissé un souvenir précis par rapport aux autres?
Bah, le Vendée Globe, c'est quand même un sacré truc. Parce que, en plus, j'avais pas non plus une énorme expérience, puisque donc après la Mini Transat 97, on a construit donc Dampier-Bonneuil, un Mini Transat avec Richard Mirigeau. Et la moitié du temps, je travaillais sur les 60 pieds pour les autres, et la moitié du temps, je naviguais sur mon Mini pour moi. Et en fait, je travaillais pour Didier Mondoutegui, puis j'ai eu l'occasion de récupérer. De
Merci.
récupérer son bateau et je me suis lancé dans le Vendée Globe, mais ça avait été une histoire incroyable. D'abord, on avait fait ça avec peu de moyens et par contre, enfin, beaucoup d'amis de la Mini Transat m'ont donné un coup de main pour que je puisse être au départ. Et puis après, la course, 4 mois de course, c'est assez phénoménal, quoi. Ça marque à vie.
Oui. Alors justement, tu me parles du Vendée Globe. C'est à cette occasion-là que tu es passé au Cap Horn. Est-ce que tu
Oui.
peux un petit peu raconter cette arrivée au Cap Horn et ce passage, les conditions météo, comment tu l'as vécu?
Bah, le passage en lui-même du Cap Horn, ça allait. C'est surtout la veille où il y a eu vraiment une grosse dépression et c'était dur parce que plus on se rapproche du Cap Horn, plus la mer grossit. Bon, il y a toujours voilà, 40, 50, 55 nœuds de vent. La nuit précédente le Cap Horn avait été très très chaude, c'est vraiment la survie quoi. Et puis après on passe le Cap Horn, donc là j'ai passé au petit matin, il était un peu dans la brume, je suis pas passé très très loin, je l'ai vu quand même. Et après tout d'un coup bah voilà en 2 heures de temps la mer ça s'arrête, c'est on rentre dans un autre monde quoi, c'est vraiment un truc incroyable.
D'accord, et donc tu as navigué aussi sur pas mal de bateaux. Est-ce qu'il y en a un en particulier auquel tu étais attaché?
Bah, le plus attaché, je dirais que c'est certainement Dampier-Bonneuil, le mini transat que j'ai construit avec Richard. Voilà, et sachant qu'aussi, après le Vendée Globe, j'ai construit un classe 40 qui s'appelle Nassira. Et c'est avec ce bateau-là qu'on est venu en famille en Polynésie. Et on a toujours le bateau, on navigue toujours avec quand il y a les vacances des enfants.
D'accord. Et donc parmi, tu as passé quand même beaucoup de temps en mer, que ce
Oui.
soit en croisière ou en course. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement heureux qui reste gravé dans ta mémoire?
Pardon, un moment particulièrement.
Particulièrement heureux, un moment de bonheur ou qui reste gravé?
Ben, il y en a plein. De toute façon, déjà, quand on est en mer, moi, quand je suis en mer, je suis heureux, hein, je suis content. Après, ouais, il y en a plein, mais peut-être. Je sais pas, là, je sais pas, j'ai pas les trucs qui ressortent particulièrement.
Donc, ça peut être aussi la réponse de dire qu'effectivement, quand on est en mer, on est heureux et que quel que soit le moment, on se trouve bien en mer.
Ouais, c'est ça, c'est beau. On choisit notre route, on se sent libre, on est avec les éléments. Enfin, ouais, c'est. Le fait d'être en mer enfin, me rend heureux.
Donc, tu as dû connaître pas mal de choses en mer, des moments, on vient de le voir, qui peuvent être heureux, des moments plus difficiles, peut-être des problèmes techniques, des moments où il faut savoir peut-être compter avec les éléments. Est-ce que s'il y avait une vertu ou une qualité que la mer a exigée de toi, tu penserais à quoi?
Alors, c'est vrai que, bon, alors déjà, le fait, quand on navigue tout seul, on a des émotions très fortes. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Le moindre petit truc qui se passe, on va être très très content ou très très malheureux. Et je me souviens vraiment de ma première mini transat où je me ressortais des choses que ma mère me disait quand j'étais petit. Voilà. Et puis, donc après, les qualités, bah, je sais pas, mais. Ben en fait, c'est rude, quoi. Il faut rien lâcher, c'est surtout ça, je pense. C'est quand même un milieu assez rude. Et donc, ben, les qualités, c'est de vouloir aller au bout des choses.
Donc maintenant, je crois que tu es
Alors,
là.
après, je dirais, c'est très important d'anticiper. Donc ça, c'est aussi une qualité qu'il faut pouvoir avoir. Les gars qui naviguent, ils sont tout le temps en train d'anticiper, de savoir bon, voilà, on en est là, mais tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer demain? On est toujours en train d'anticiper.
D'accord. Donc justement, là, tu dis là, savoir ce qui va se passer demain. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Quels sont-ils aujourd'hui? Tes projets de mer, par exemple?
Alors ouais, que j'ai toujours mon voilier, le TS 40 Nasira, et il se profile une transpac qui ferait Los Angeles-Tahiti. Et il se trouve que en Polynésie, c'est le peuple polynésien, c'est des marins, c'est un peuple de marins. Ils ont découvert toutes ces îles en avion. Ils ont ça dans le sang. Et alors, il y a des personnes qui continuent à essayer de revivre leur tradition. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand l'homme blanc est arrivé, les Européens, c'est en particulier les évangélistes,
Missionnaire, oui.
ils ont essayé de supprimer toute la culture polynésienne. Ils les ont interdit de chanter, interdit de se tatouer. Ils n'avaient même plus le droit de parler en tahitien. Ils ont brûlé tous les navires. Enfin, c'est quelque chose d'assez horrible. Alors, les Polynésiens, ils ne sont jamais rebellés vraiment contre ça. Bon, là, aujourd'hui, il y a par exemple une association, Fafaité, ils ont reconstruit une pirogue double qui doit faire 18 ou 19 mètres, et ils naviguent comme ils naviguaient à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun instrument à bord, et ils se débrouillent avec les étoiles, le soleil, d'où vient la mer, d'où vient le vent pour se repérer, se déplacer. Et ils sont allés en Nouvelle-Zélande comme ça, là. Ils ont fait Tahiti, Nouvelle-Zélande, il n'y a pas longtemps. Ils vont à Hawaï. Enfin, il n'y a pas de problème. Ils se baladent sans aucun instrument. Et donc, j'aimerais bien emmener alors, ce qu'on appelle, c'est l'Oro Moana. C'est celui qui fait la navigation,
La
quoi.
navigation, oui.
Et j'aimerais bien l'emmener en course sur Nassira, justement, pour lui montrer le logiciel de navigation avec le routage météo. Vraiment que, et puis que nous, vraiment, la pirogue double qu'ils ont, c'est quand même pas un bateau hyper sécu. Alors, ils vont vite réduire la toile pour continuer à avancer, mais pour naviguer en sécurité. Alors que là, nous, en course, au contraire, on va garder la toile hyper longtemps, tirer dessus. Et je pense que ça peut être très intéressant pour le gars d'avoir ce double point de vue, quoi. Donc, j'aimerais bien participer à cette course, entre autres pour ça. Et puis sinon, bah, les projets, ils se font plus à terre avec l'idée de monter une corderie pour faire des cordages en fibre de coco.
D'accord. Ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Je souhaite que tu puisses réaliser ça parce qu'effectivement, cette navigation-là, on en a entendu parler quand on était en Polynésie, puisque nous aussi, on avait pas mal navigué là-bas. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces contacts et de voir revivre cette culture. Donc, j'espère pour toi que tu réussiras dans ce projet-là. Et donc, ben, je te remercie aussi d'avoir accepté cette interview. On voulait te dire qu'au niveau de La Rochelle, cette ville est fière de ses Cap Horniers et de ces personnes qui se sont investies pour la course au large.
Ben oui, merci beaucoup. Et puis, ben, surtout là, on peut être fier de Yannick, qui a quand même fait une course incroyable. Et puis, c'est mérité, quoi, depuis le moment qu'il se bat déjà pour être au départ. Et puis, ben, on savait que c'était un grand compétiteur, puisque c'est pas la première course qu'il gagne, quoi. Mais voilà, toutes mes félicitations à Yannick. Je suis vraiment content pour lui. Et j'ai lu un peu dans la presse que ça pouvait redynamiser. La
À La
course au
Rochelle.
large de La Rochelle, de faire un centre d'entraînement comme on a essayé de le faire pendant des années et ça n'avait jamais vraiment abouti. J'espère que ça marchera,
On le
ça
souhaite, hein.
fonctionnera.
On le souhaite.